Bonjour, je vais essayer d'être rapide. C'est un peu dur de parler après ce compte-rendu des chrétiens persécutés, qui sont nos frères et nos sœurs, quand on voit ce qu'ils vivent par rapport à la chance que nous on a de... Bon, on peut venir ici sans être trop inquiété, hein. Et bon, c'est vrai que partager sa foi, c'est quand même plus compliqué qu'avant. Mais on n'en est pas du tout à ce stade et on a encore bien de la chance. Bon, je vais enfiler mes lunettes parce que la mise au point est compliquée maintenant. Voilà, en fait, ce que je vais vous partager ce matin, c'est ce que j'ai sur le cœur depuis pas mal de temps. Et c'est un peu le fruit, le bilan d'un parcours personnel dans notre couple, Isabelle et moi. Et je voudrais vous dire qu'on a traversé des moments difficiles dans les années passées. Et le Seigneur nous a appris beaucoup de choses. Vous savez, quand on traverse des moments difficiles, et je pense qu'on en traverse tous, à tous les niveaux, c'est parce qu'on a des choses à apprendre. Avec le Seigneur, tout a un but. Et même quand on traverse des moments difficiles, ils ne sont pas là pour nous démolir, ils sont quand même conduits par le Seigneur pour nous apprendre des choses, pour nous aider à comprendre des choses. Et parfois, l'aide des frères et des sœurs, et même très souvent, elle est très précieuse. Et je sais qu'on doit honorer nos anciens qui veillent sur l'église, et je voudrais remercier Paul et Sophie. Sophie, elle n'est pas là ce matin. Mais je voudrais les remercier pour l'aide qu'ils nous ont donnée. Et donc ce matin, je voudrais, bon, pas faire état de tout, mais ça m'a amené à réfléchir sur le fonctionnement du couple, les dysfonctionnements du couple, et surtout le parallèle qui existe entre le couple terrestre, l'homme et la femme, et son parallèle qui existe entre Christ, le Seigneur, et son Église. Et donc ce matin, on va faire un long voyage. On va venir sur la terre, aller au ciel, revenir sur la terre, aller au ciel, et considérer ensemble tout ce que la Bible nous apprend, enfin une partie, je n'ai pas du tout la prétention de tout parcourir, mais une partie des points que j'ai jugés essentiels sur ben, quelle est l'analogie, quel est le rapport qui existe entre le couple et Christ et son Église. Et donc, le Seigneur et nous-mêmes aussi en tant qu'individus, puisque nous sommes chacun membres du corps de Christ, nous faisons partie de l'Église et nous sommes donc en soi chacun un morceau de l'Église. Et la relation que Dieu, par Jésus-Christ, a avec son Église, elle ressemble. Ou plutôt, la relation qu'un homme a avec sa femme et inversement, ça ressemble. Sacrément. Il y a un parallèle entre les deux. Et donc le titre hein, que je pourrais donner, parce qu'on me le demandera sûrement tout à l'heure, j'aurais envie de donner le couple terrestre, virgule, image du couple spirituel ou du couple céleste. Et donc c'est ce que je vous propose de parcourir ce matin. Premièrement, on a traversé des moments difficiles, mais je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls. Si je demandais aux couples de lever la main, les couples qui n'ont jamais traversé de tempête, je crois qu'il n'y a personne qui lèverait la main. Parce que, ben, au début, quand on se lance dans la vie à deux, tout est rose, tout est beau, et puis ben, après vient la réalité. Et quelquefois, c'est bien compliqué. Et personne non plus n'ignore l'acharnement du diable contre les familles, contre les couples. Parce que ben, le diable ne veut pas de la famille, ne veut pas que le couple se construise et perdure. Et quand on regarde aujourd'hui, le nombre de divorces, c'est énorme. Parce que l'acharnement est de plus en plus fort et les mentalités évoluent aussi. On a de moins en moins envie de faire d'efforts. On est à une époque du jetable et quand ça ne va pas, on jette et on change. Et on essaye de reconstruire. Mais vous savez, cet acharnement du diable contre le couple, et particulièrement les couples chrétiens, je pense qu'il trouve son origine tout simplement dans le fait que la relation au sein d'un couple, elle ressemble à la relation entre Christ et son Église. Le diable, il veut détruire cette image que Dieu a instituée, et donc il y va. Il met tout ce qu'il a. Et nous, nous sommes là au beau milieu de tout ça, et il nous faut tenir ferme. Le diable, c'est écrit, il veut dérober, égorger et détruire. Dérober, par exemple, la notion de fidélité, la notion d'effort nécessaire pour traverser les tempêtes dans le couple. Dérober la sainteté du mariage. Regardez ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Le mariage, comment il est dénaturé, défiguré. Aujourd'hui, on marie des homosexuels. On est complètement loin du mariage initial instauré par Dieu. Égorger, détruire les couples en semant la mésentente et l'abandon en faveur du divorce. Mais je vous ai lancé là qu'il existait un parallèle entre les deux, entre Christ et l'Église et l'homme et la femme. Vous seriez en droit de me dire, mais tu tiens ça de où? Vous le savez peut-être. Alors on va aller le voir dans la Bible. Dans Éphésiens, chapitre 5, on va commencer au verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voyez, l'apôtre Paul ne cesse de faire le parallèle entre Christ, l'Église, l'homme, la femme ou la femme et l'homme. Comme si ça fonctionnait pareil. Et c'est vrai, il y a beaucoup de points communs. Et d'ailleurs, vous n'êtes jamais posé la question. Qui parle le plus du mariage dans le Nouveau Testament? Ben, c'est l'apôtre Paul. Il était marié d'ailleurs? Ah non, c'est un comble, hein? C'est un comble. C'est un célibataire qui nous enseigne le plus sur le fonctionnement du couple. Ben, on pourrait se dire, ben, comment il fait? Il n'a aucune expérience. Mais il a une autre expérience. Il a l'expérience du fonctionnement du couple divin, de Christ, de son Église, de sa relation personnelle avec son Seigneur. Et parce que cette relation-là, il l'expérimentait au quotidien dans toute sa profondeur et toute sa richesse, il était sans aucun problème capable de deviner un peu le fonctionnement d'un couple entre l'homme et la femme. Il avait très bien compris ce frère, qu'il y a un parallèle. Le couple terrestre, c'est l'image du couple céleste. Vous êtes d'accord avec moi? Ça se ressemble sacrément. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses là-haut qui trouvent leur homologue terrestre. Par exemple, Dieu a dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous sommes donc l'image de Dieu. Nous avons été ternis par le péché, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Le mariage a été créé à l'image de Christ et de son Église. Et donc, le fonctionnement de l'original, plutôt le fonctionnement de l'image, ressemble forcément au fonctionnement de l'original. Et quand on connaît bien le fonctionnement de l'original, on peut parler du fonctionnement de la copie terrestre. Et si on pense à Moïse, il avait pour ordre de tout construire par rapport au tabernacle, par exemple, exactement selon l'image qu'il avait reçue de Dieu sur la montagne. Et tout ce qui était dans le tabernacle, c'était une représentation des choses célestes. Et il y a plein de choses sur la terre qui fonctionnent de cette façon-là, qui sont une représentation, une image du céleste. Et je pense que quand on sera là-haut, on comprendra certainement beaucoup de choses qu'on aura vécues sur la terre. On se dira, c'est pour ça que c'était comme ça. Et pour le couple, il en est de même. Alors voilà, donc voilà pourquoi on va faire sans cesse des allées et venues entre le céleste et le terrestre. Et je vous propose de commencer par l'amour, qui est l'ingrédient essentiel du couple et de Dieu. D'ailleurs, si on va voir dans 1 Jean 4,8, je le cite juste, n'y allez pas, c'est tout court, Dieu est amour. Dieu est amour. C'est très court, mais qu'est-ce que c'est profond. Dieu est amour. Il aime. C'est toute son essence. Autant le diable, c'est le mensonge, autant Dieu, c'est l'amour. Quand on s'approche de Dieu, on ne peut que sentir de l'amour. Dans un couple, on ne peut normalement que sentir de l'amour. Un couple ne peut pas se créer, ne peut pas se mettre à fonctionner sans cet amour. S'il n'y a pas cet amour, ça ne peut pas marcher. De la même façon, entre Christ et l'Église, et donc entre le Seigneur et moi, entre le Seigneur et chacun de nous, il y a forcément l'ingrédient essentiel qui est l'amour. Et le cœur de Dieu en est rempli parce qu'il est amour. Et si nous vivons dans cette relation d'amour avec le Seigneur, forcément, on est contaminé par son amour. Et l'amour qui coule du cœur de Dieu ne peut que couler aussi à notre tour de notre cœur. Et c'est complètement normal. Et au sein du couple, si on va voir dans Éphésiens, on l'a lu, hein, chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » C'est un ordre, comme si c'était compliqué à exécuter. Hein. Non, ça ne doit pas être compliqué. Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est normal. Jésus, il est au petit soin avec son Église. Il est au petit soin avec chacun d'entre nous. Il nous chérit dans son cœur. Comme nous, Marie, nous avons envie de chérir notre épouse et d'en prendre soin, de lui donner ce dont elle a besoin, de la bichonner, de lui donner toute l'affection, l'amour, la tendresse. C'est normal. Elle attend ça de nous. Et Dieu attend de nous qu'on le fasse. C'est normal, parce que Christ fonctionne de cette façon avec son Église. Je continue. Toujours dans le parallèle. L'amour, premier point. L'unicité dans la relation. Y a-t-il plusieurs dieux ? Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. De même, le mari, il n'a qu'une seule femme, et il lui est fidèle comme Christ est fidèle avec son Église. En plus, c'est écrit que Dieu est jaloux. C'est marqué dans Deutéronome 5:9, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on aille voir ailleurs. Et de la même façon, le mari, il peut éprouver une jalousie par rapport à son épouse et réciproquement, ce qui est complètement légitime et normal. Ton épouse, elle est rien que pour toi et ton mari, il est rien que pour toi. C'est normal. Et ça exclut tout travers qu'on trouve si couramment dans notre bas monde. De voyager à droite, à gauche. Non. Il y a une unicité. Un seul mari, une seule femme. D'ailleurs, si vous parcourez l'Ancien Testament, j'ai passé beaucoup de temps ces derniers temps dans Jérémie et Ézéchiel. Qu'est-ce qu'on y trouve en plus grand nombre? Eh bien, on y trouve une comparaison du peuple de Dieu avec une femme adultère, où Dieu regarde son peuple et il le voit en train d'aller adorer les dieux des nations autour. Et aux yeux de Dieu, de ce mari qui aime sa femme, eh bien, il voit son peuple comme quelqu'un d'adultère, d'infidèle, qui se prostitue. Cherchez le mot que tu te prostitues. On le trouve à beaucoup de reprises dans ces chapitres. Et on découvre le cœur meurtri de Dieu qui souffre de l'infidélité de son peuple. Parce que notre Dieu, il a des sentiments. Et ça, on l'oublie souvent. Nous avons été créés à son image, comme je l'ai dit au début. Nous avons des sentiments. Nous ressentons des choses. Vous croyez que Dieu ne ressent rien? Pas du tout. Il ressent aussi des choses. Et quand il voit qu'on est en train de chercher ailleurs, parce qu'on cherche on cherche ailleurs qu'auprès de lui du secours, vous pensez qu'on ne lui fend pas le cœur? Il éprouve des sentiments. Et si vous lisez dans l'Ancien Testament toutes les nombreuses fois où son peuple partait faire comme les habitudes des nations autour, adorer d'autres dieux, ben Dieu souffrait de ça. Et on le trouve exprimé dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. Parce que Dieu regarde son peuple comme une épouse, et il voudrait qu'elle lui reste fidèle. Il voudrait qu'elle vienne chercher, s'abreuver auprès de lui et auprès de personne d'autre. Donc, Dieu regarde son peuple comme un mari regarde son épouse et il souffre si elle n'a pas recours à lui. Parce que c'est du devoir de l'époux de prendre soin de son épouse. C'est du devoir de l'époux de la nourrir et du devoir de l'épouse de venir auprès de son époux pour recevoir ses soins. L'amour entraîne aussi la sensibilité. Si tu aimes ton épouse et épouse, si tu aimes ton mari, tu vas apprendre à avoir une oreille sensible, un cœur sensible à ses besoins. Et mon frère, ma sœur, est-ce que tu es sensible aux besoins, je dis, de ton conjoint? Comme ça, ça fait les deux. Est-ce qu'on est assez sensible aux besoins du conjoint, à ses attentes? Est-ce que notre oreille est sensible? Est-ce que notre cœur est sensible? Est-ce que nos émotions, toutes nos fibres sont sensibles pour savoir ce qu'il lui faudrait, pour qu'il ou elle soit plus heureux ou heureuse? Ou est-ce qu'on tient chacun notre bout de gras et « Ah, tu me donnes pas ça, alors t'auras pas ça non plus !» Oui, mais quand c'est en conflit, c'est là. C'est ça. Le problème, il est là. Et on ne lâche pas le morceau parce que l'autre ne le lâche pas. Et là, c'est des moments bien durs. J'y reviendrai tout à l'heure à ça, au sentiment de solitude. L'amour, il entraîne aussi, de façon complètement légitime, le besoin du contact, le besoin de la proximité. Et c'est complètement légitime aussi. C'est normal qu'on recherche les câlins, qu'on aime donner la main, qu'on aime se frotter, se toucher. C'est complètement normal. Bon, il y en a qui sont qui le recherchent moins que d'autres. Moi, là, pas de chance, j'en cherche beaucoup. Mais on est chacun différent dans l'expression de l'amour, mais c'est quelque chose de normal que d'aimer le contact physique avec son époux ou avec son épouse. Comme on a besoin aussi, en tant qu'Église et en tant qu'individu chrétien, du contact avec notre Dieu. Quand on n'a pas ce contact, ben on est perdu. Ça vous arrive pas, vous, des jours où vous dites, mais Seigneur, il est où? J'ai l'impression qu'il n'est plus là. Ben on est perdu. Tous les jours, on a besoin de passer un moment dans la présence du Seigneur pour puiser nos ressources, pour avoir ce moment de contact, ce moment de, pourrait dire, ce moment de câlin. On a besoin de cette relation avec notre Créateur. De la même façon, un couple a besoin de cette relation avec son conjoint. Et c'est normal, il y a besoin de cette proximité, de ce contact. C'est normal, parce que Christ le cherche aussi avec son épouse, l'Église. Quand on est rassemblé, c'est écrit que le Seigneur, il est au milieu de nous, on ne le voit pas, mais il est là et il cherche ce contact. Il en a besoin, comme tu en as besoin de ce contact avec ton conjoint. C'est normal. Ça fonctionne pareil. Ce n'est pas différent. Et on a besoin de cette relation intime dans notre cœur avec notre Sauveur. Vous êtes d'accord? Sans ça, ben on est perdu. On ne peut plus faire un pas de plus. Quand on y a goûté, ben on ne peut plus faire sans. C'est comme un couple, si on est obligé de partir en déplacement, oh, c'est dur, c'est long, les journées sont interminables. On a besoin de se retrouver. Là, Isabelle travaille à la MAM, ben, elle est moins souvent à la maison, ben, quand elle rentre, c'est la fête. Ben, on est content de se retrouver. Et c'est complètement normal. Une journée, c'est long. Et on a besoin aussi de cette proximité avec le Seigneur. Tout ça, c'est en fait plein d'amour. On va continuer dans ce domaine de l'amour qui implique aussi le don de soi. C'est encore une autre facette de l'amour. Dans le monde spirituel, c'est écrit que Christ s'est offert pour son Église. Christ s'est offert pour nous. On le sait, il est mort à la croix, il a tout donné. De la même façon, il nous appelle, nous aussi, à nous offrir à lui dans notre relation avec lui. Dans Romains 6, 13, il est écrit « Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Christ, l'époux parfait, s'est offert pour nous et il attend de nous, l'épouse, de nous offrir à lui. C'est normal. Et exactement de la même façon, on va aller lire dans Corinthiens, 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 7, les versets 3 à 5. Vous les connaissez sûrement, hein, mais on va les relire. Ça fait jamais de mal de relire la Bible. 1 Corinthiens 7, 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Christ s'est offert. Il attend de nous qu'on s'offre à lui. De la même façon, l'homme n'est pas maître de son corps, c'est son épouse, et l'épouse n'est pas maître de son corps, c'est son mari. Ça veut dire que si l'un a besoin, envie de l'autre, on ne lui refuse pas. On s'offre dans ce don mutuel qui baigne dans un bain d'amour. Il est normal de s'offrir à l'autre. Et vous savez de quoi je parle. C'est quelque chose qui est normal, qui doit couler de source. Et c'est sûr que dans les moments de conflit, on ne desserre pas les dents. Ah, eh ben non. Et là, on entre dans une spirale qui peut durer longtemps et qui fait mal. Est-ce que je suis capable de me donner même si j'ai quelque chose contre mon conjoint, autant pour l'un que pour l'autre? Christ s'est offert pour nous alors que nous étions pécheurs. Nous n'avions rien pour lui plaire. Il a montré l'exemple, il s'est offert. Est-ce que je suis capable dans cet exemple de m'offrir à l'autre? On sait combien c'est dur de faire face à la frustration de la sorte, de trouver la porte fermée chez le conjoint. Pensons un peu au sentiment que ressent Jésus quand il frappe à notre porte et que nous ne lui ouvrons pas le cœur. Il y a sûrement la même frustration, parce que ça fonctionne pareil. Il a aussi des sentiments, comme nous en avons. Ou plutôt, nous en avons, comme lui en a. Parce que c'est nous, la copie. C'est écrit que il se tient à la porte et il frappe. Si on entend sa voix et si on ouvre la porte, il entre. Il frappe. Alors, on l'applique souvent aux personnes qui doivent se convertir, mais à tous les stades de notre vie chrétienne, il frappe à la porte. Parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Et le Seigneur frappe à la porte. Et peut-être que ce matin, il frappe à la porte de ton couple. Tu vas écouter. Il y a quelque chose à changer dans ta vie. Laisse-moi rentrer. Laisse-moi changer ce qui ne va pas. Et si tu ouvres la porte, ben il va rentrer et il va changer les choses. Et contrairement à l'être humain qui voudrait forcer, ah, qui voudrait manipuler, qui voudrait ah, que tu changes. Ben non, le Seigneur, lui, il est infiniment patient. Il tape à la porte. Et il attend. Il attend le bon moment. Et il va nous faire traverser des moments, des expériences, des difficultés qui vont nous amener à nous remettre en question, à évoluer dans notre vision des choses pour apprendre à desserrer les dents et à dire « Bah oui, Seigneur, vas-y, change mon cœur, parce que je peux pas, moi j'y arriverai pas. » Est-ce que tu es d'accord pour que bah, ce soit le Seigneur qui rentre et qui fasse le travail? Lui, il le fait sans forcer. Laisse-toi, donne-toi à lui. Et ça va vraiment changer les choses. On n'y pense pas beaucoup hein, que le Seigneur peut être attristé. Mais dans Éphésiens 4:30, il est bien question, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut bien dire qu'on peut l'attrister. Et le Seigneur, c'est comme un époux qui a envie, qui voudrait aller plus loin avec toi dans ta vie. Et il frappe à la porte. Et il voudrait tellement que tu veuilles, que toi aussi t'en aies envie. Est-ce que tu veux bien? Et si tu veux pas, ben c'est comme dans un couple où un qui veut puis l'autre il veut pas. Et là c'est compliqué. Parce que ça peut durer longtemps. Et dans ces moments-là, on peut être dans le même lit, on peut être dans le même salon, sur la même banquette, et avoir l'impression qu'il y a une muraille, qu'il y a un désert entre les deux. Et c'est affreux. De traverser ces moments où on est à deux côte à côte, et on a l'impression d'être dans une solitude horrible. Vous l'avez sûrement expérimenté, moi je l'ai vécu. Peut-être vous n'en êtes pas rendu compte, mais nous l'avons vécu. Et c'est horriblement dur. Et quand ça ne va pas avec le Seigneur, quand on sait qu'il y a des choses qu'il faudrait avancer, et on ne desserre pas les dents, on laisse la porte fermée, et le Seigneur ne peut pas faire son action en nous, ben on est comme dans un désert. Et il y a une muraille, il y a une muraille entre Dieu et nous. Entre l'époux qui est Christ et nous, parce qu'on ne veut pas. Et cette solitude, elle nous isole, elle nous fait dépérir, et si on ne décide pas un moment de rompre cette glace, de casser cette muraille, ben ça peut durer longtemps. Et dans beaucoup de cas, ben, on a envie de dire « Seigneur, vas-y Seigneur, s'il te plaît, fais changer les choses. » Mais dans beaucoup de cas, c'est à nous aussi de faire le pas. Seigneur, il est tout puissant, il peut faire les choses. Mais si on ne décide pas de briser la glace, si on ne décide pas de prendre une initiative, qui va la prendre pour nous dans le couple? Qui va la prendre à notre place? On peut avoir de l'aide de quelqu'un, mais il y a un moment, il faut y aller. Vous ne croyez pas? Sinon, ça ne va pas se faire. Il n'y a pas un ange qui va descendre du ciel et qui va dire « Allez, retournez ensemble et puis arrangez-vous. » C'est à moi de faire le pas. Sinon, ça ne se fera pas tout seul. Et Christ a fait le premier pas vers nous. En venant à la croix. Il a été l'exemple profond de l'amour, du don de soi. Il est le modèle pour nous, le modèle de l'époux parfait. Allez. Ça, c'est les moments durs. Mais il y a des moments sacrément meilleurs dans un couple. Heureusement, hein. Je voudrais partager avec vous un verset, enfin plus quelques versets, qui se trouvent dans les psaumes. Alors, c'est le psaume 19. Versets 6 et 7. Alors, je me souviens, il y a très longtemps, j'avais fait une exhortation sur ce verset. C'était encore à Hasbrouck Centre, rue de Queue-de-Saint-Hilaire. Mais je peux vous assurer qu'à l'époque, je n'imaginais pas du tout la profondeur de ce verset. C'est tout ce qu'on a parcouru depuis qui m'a amené à le considérer autrement. Psaume 119, versets 6 et 7. J'ai dit 119 ? Bah, c'est un lapsus, c'est 19 tout court. Retirez le 100 devant. Psaume 19. Parce que le psaume 119, il est bien connu, il est très long. Alors, le psaume 19, versets 6 et 7. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Deux points, rien ne se dérobe à sa chaleur. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais relevé la bizarrerie de ce verset. Parce qu'on aurait envie de dire que l'époux, il est semblable au soleil. Non ? Mais non, c'est l'inverse. C'est le soleil semblable à un époux. Ah oh bah purée, la barre est haute pour nous. Hein. C'est le soleil là, qui copie sur nous. J'avais relevé cette bizarrerie et ça plaçait la barre assez haute. Mais aujourd'hui, je voudrais aller plus loin dans ce verset. Parce que on nous le dit pas, mais je peux entrer dans les détails, vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre avant qu'il se relève, cet époux ? Ben, il a une épouse qui sait le rendre heureux. La relation qu'ils ont ensemble rend l'époux heureux. Au point que le soleil est semblable à l'époux. Il est tellement heureux, il est tellement joyeux, il a tellement d'énergie, tellement de force que le soleil lui ressemble. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Il se lève et va se coucher, et dans toute sa journée, il a l'énergie du soleil. Parce que son épouse sait le rendre heureux. Et imaginez un époux comme ça, un mari comme ça, un papa comme ça. Vous imaginez les répercussions pour l'épouse, les répercussions pour les collègues de boulot, les répercussions pour la famille, pour les enfants. D'avoir un papa, un époux, un collègue, le soleil lui ressemble. Comme quoi, si la relation est de qualité, ben l'homme, il est heureux. Il est joyeux, il a la force du soleil. Et tout le monde, tout l'entourage, forcément, il bénéficie de cette chaleur, de cet amour, de tout ce qui va couler. Et si on va voir maintenant le parallèle dans l'autre sens, si dans ta vie, tu laisses Christ agir, tu rends le cœur de Dieu joyeux à l'intérieur de toi, et tu imagines tout ce qui peut en découler dans ta vie. C'est énorme. Si on laisse le Seigneur agir dans notre vie, on le rend heureux et tout l'épanouissement de sa personne en nous va nous faire bénéficier de ce soleil divin, cette énergie spirituelle, tout ce rayonnement que Dieu va produire en nous. Et on va être un soleil parce qu'on aura laissé Dieu agir en nous dans toute sa profondeur, dans toute l'expression de son amour. Vous imaginez les conséquences dans notre vie. C'est énorme. Et pourtant, aujourd'hui, nous n'en sommes qu'aux fiançailles dans notre vie spirituelle. On est on vit déjà des choses extrêmement fortes avec notre Seigneur. Mais on n'est même pas encore marié. Parce que les noces n'ont pas encore eu lieu. Les noces de l'agneau, elles vont arriver à la fin. Quand on entrera là-haut, vous ressentez déjà cette joie, cette vie éternelle qui commence sur la terre. Et pourtant, on n'est même pas marié encore. C'est juste la joie d'une fiancée qu'on expérimente aujourd'hui sur la terre avec notre Sauveur. Vous imaginez un peu comment ça va être là-haut, quand on sera marié, quand on pourra bénéficier pleinement de toute l'expression d'amour de notre Sauveur pour nous, dans l'épouse que nous serons devenus là-haut. Vous arrivez à l'imaginer? C'est dur, hein? Mais ce sera encore bien plus grand qu'ici-bas. Et moi, ça me donne envie d'y aller, hein? Vous trouvez pas? Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons que la joie d'une fiancée. Et là-haut, nous serons une épouse. Nous serons mariés et tout pourra vivre, être vécu pleinement dans cette relation d'amour entre Christ et chacun de nous. Alors, engageons-nous aujourd'hui à déjà savourer pleinement cette relation avec notre fiancé qui est Jésus-Christ. Parce qu'il déborde d'amour pour nous et pour les couples. Vous pouvez penser à toute la richesse de cette relation, tous ces éléments qu'on a parcourus et que ça puisse s'enraciner dans nos cœurs pour rechercher encore plus de profondeur, plus de vérité, plus de droiture, plus de sincérité, plus d'amour, plus d'épanouissement, plus de don de soi-même. Parce que ce sont tous des vecteurs, tous des axes qui vont faire que tu vas vivre pleinement ta vie et que tu peux être encore plus heureux dans cette vie terrestre, parce que le Seigneur ne nous a pas dit de ne pas être heureux, hein? Pas du tout. Au contraire, on doit être joyeux. Et le Seigneur nous a offert tout ce qu'il faut pour l'être. Mais il y a des choses à suivre. Il y a des enseignements à appliquer. Il y a l'œuvre du Seigneur à laisser descendre, laisser se faire en nous. Et si on le laisse faire, alors on va vraiment expérimenter toute la joie dans toute la profondeur, dans tous les axes possibles que le Seigneur veut qu'on vive et qu'on expérimente. Alors je vais vous laisser avec ça. Je propose qu'on prie rapidement et que le Seigneur vous bénisse et que sa parole, elle puisse pénétrer en nous pour qu'on puisse le sentir dans tout son amour, dans toute sa profondeur et vivre pleinement cette vie de joie et de tressaillement avec lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toute la profondeur de ta parole. Merci pour les épreuves qui nous permettent d'apprendre tant de choses. Merci pour ton amour qui coule de ton cœur et qui coule dans notre cœur et qui coule sur ceux qui nous entourent. Donne-nous, Seigneur, de ne jamais nous refuser à toi, de toujours t'ouvrir la porte grande de notre cœur, pour que ton œuvre puisse se faire en nous, et qu'on puisse faire de toi un époux heureux, qui peut pleinement s'exprimer dans notre vie. Merci Seigneur pour toutes ces vérités, dans ces images que tu nous as laissées dans ta parole, Seigneur. Amen.